Alors, Madame Levavasseur, nous vous remercions pour le témoignage que vous allez nous apporter par rapport à votre travail dans le cadre du Centre de rééducation et de réadaptation fonctionnelle de Nau. Est-ce que vous pouvez, en premier lieu, nous dire quelle est votre fonction dans l'établissement ?
Alors moi, ma fonction, elle se nomme cadre de santé. Un cadre de santé au centre de rééducation de Nau. Et moi, pour ma part, j'ai la responsabilité d'une équipe d'hospitalisation. Donc, on a deux unités d'hospitalisation. Et donc, j'ai la responsabilité de l'équipe aide-soignante et infirmière qui travaille sur cette unité-là, sur cet étage-là. Et j'ai aussi la responsabilité de l'équipe qui intervient au niveau de l'hôpital de jour. Donc, de par ma fonction, j'ai la responsabilité de la qualité des soins, de la sécurité aussi des soins et de l'organisation du travail pour produire des soins de qualité, de sécurité pour le patient, on va dire. Alors cette fonction-là, je l'occupe depuis juillet 2020. Et auparavant, au niveau du centre de rééducation, j'ai été aussi pendant 6 ans infirmière coordinatrice au sein de l'hospitalisation à domicile. Et avant d'intégrer le centre, j'ai été pendant 14 ans infirmière au CHU à Limoges. Voilà mon parcours professionnel.
Alors, de cette place singulière, comment rencontrez-vous les patients ? Quelle relation avez-vous avec eux ?
Alors, j'ai moins une relation directe comme j'avais quand j'étais infirmière. J'ai plus une relation indirecte. Je les rencontre au moins déjà dès leur premier jour. J'essaye de rencontrer chaque patient le jour où il rentre dans l'établissement pour me présenter à lui, présenter mon nom, mon prénom, ma fonction. Leur demander aussi si l'accueil dans l'établissement s'est bien passé, s'ils ont des fois des inquiétudes, puisqu'on sait que ça génère quand même toujours un petit peu de stress. Leur dire aussi qu'ils pourront me voir toutes les semaines lors de la visite d'étage, puisqu'on a une visite d'étage hebdomadaire faite par les deux médecins de l'étage, et auxquels je participe, j'accompagne l'équipe médicale, et qu'ils vont me croiser dans les couloirs, que je suis facilement reconnaissable, j'ai une paire de lunettes bleues, des petites choses comme ça, et pour leur dire s'il y avait quoi que ce soit... une difficulté, quelle qu'elle soit, je suis là aussi pour répondre à leurs questions. Donc je les rencontre, déjà le jour où ils rentrent, j'essaye de le faire. On va dire que sur 10 entrées, j'en vois au moins 8, je pense. Et après, je les vois tous les mardis. C'est possible que j'intervienne des fois sur des soins un petit peu difficiles, mais je laisse beaucoup la... Mon objectif, c'est d'avoir une équipe infirmière et de soignante le plus autonome possible. Et je vais intervenir sur demande du patient, et puis on va se croiser dans les couloirs. Ça m'arrive aussi d'échanger avec eux. Mais c'est sûr que c'est une fonction qui m'éloigne un petit peu du soin direct avec le patient.
Oui, néanmoins, ça vous permet d'avoir une vision...
J'ai une vision beaucoup plus large. Haute, en fin de compte, de l'équipe et de l'organisation du service. Puisque je vais voir les choses pas directement chambre par chambre, mais je vais voir plutôt service par service et les différents impacts aussi de l'organisation, des décisions qu'on peut avoir.
De quoi souffrent les patients que vous recevez ?
Alors essentiellement, ils souffrent de... Donc on a un centre de rééducation spécialisé en traitement des infections locomoteurs. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tous les patients qui ont une chirurgie de l'épaule, du genou. La hanche, c'est quand même très très rare, c'est vraiment la hanche dans des situations particulières où le patient peut être fragilisé par d'autres pathologies et il viendra dans notre établissement pour la rééducation, sinon ça se fait à domicile. Après, tous les gens qui ont eu malheureusement un accident de la route, tout ce qui est fractures, choses comme ça qui nécessitent après des rééducations. Ça, c'est un versant, on va dire, l'orthopédie locomoteur, et on a un versant neurologie où ça va être tous nos patients victimes d'AVC. Et des gens aussi de maladies neurologiques chroniques, par exemple les scléroses en plaques, les CEP, on va prendre en charge des patients pour ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un séjour de relance. Quelqu'un qui va revenir du domicile, qui va être chez nous pendant 3-4 semaines, on va le refaire travailler, le réadapter un peu à l'effort, dans la mesure de ce qu'il peut faire, à la mobilité, pour travailler le risque de chute, pour qu'il reprenne après un petit peu plus d'autonomie à son domicile, retravailler avec lui aussi des aides techniques pour aussi l'aider à gagner en autonomie à son domicile. S'il est capable de se transférer seul d'un lit au fauteuil avec une aide technique, autant qu'il le fasse seul qu'avec une aide humaine. Voilà, c'est un petit peu on refait le point avec ce patient tous les ans. Voilà, de manière un petit peu large, ce qu'on reçoit comme personne. Et sur l'hôpital de jour, on va retrouver un peu le même type de patient. On a un programme de TP sur le patient lombalgique. Donc des gens souvent qui sont en rupture, on va dire, pas toujours, mais souvent professionnels, et dû à des douleurs de dos, et du coup qui ont une perte de mobilité, une perte d'activité. Donc ils vont rentrer dans un programme d'ETP, d'éducation thérapeutique, pour travailler avec eux sur pour une reprise d'autonomie, une reprise d'activité. Ce programme-là, on l'a aussi bien chez les patients qu'on va prendre en hospitalisation complète qu'en hôpital de jour. Et en hôpital de jour, on va retrouver pareil des séjours de relance, on va retrouver d'autres actions de soins un peu plus particulières thérapeutiques, comme de la toxine pour traiter la spasticité chez certains patients. Voilà un petit peu notre éventail de soins.
Quelle est la nomination générique de ces atteintes physiques? Vous parlez de trauma physique, vous parlez j'ai un peu buté sur la façon de nommer ce qui, de façon générale, concerne les patients que vous recevez.
C'est une perte. Il y a une atteinte physique dans le sens où il y a une mobilité qui est atteinte. Quelqu'un qui vient pour une PTG, sa mobilité, elle va être atteinte pendant quelques jours, quelques semaines. Petit à petit, elle va s'estompe pour partir d'ici avec une capacité de marche, une capacité à monter les escaliers. Quelqu'un qui va être une paralysie, sa mobilité, elle est complètement atteinte, mais on va le réadapter à une autre mobilité. L'objectif, c'est quelqu'un qui arrive, qui est paralysé, si on arrive à lui faire faire les transferts sur un fauteuil, il va de nouveau être mobile, mais pas à pied, en fauteuil. Donc la réadaptation, là, elle prend tout son sens. On va rééduquer quelqu'un sur une PTG, parce qu'on va le rééduquer à la marche, mais on va réadapter peut-être plus facilement sur ces patients-là qui ont des atteintes, du corps, quoi. Enfin, on va les réadapter pour qu'ils puissent gagner le plus de mobilité possible, qu'ils puissent être le plus autonomes possible. C'est des petits gains qui peuvent paraître anodins quand on est en bonne santé, mais quand on est touché par le handicap qu'ils ont, c'est pour que le handicap il s'efface. Ils sont peut-être un handicap par rapport à moi qui est toute ma mobilité, mais eux, ils arrivent quand même à se déplacer d'un point A en point B, mais en fauteuil. Donc, du coup, ils retrouvent une autonomie.
L'appellation trauma physique est trop fort.
Non, ça peut être un trauma. C'est un traumatisme physique.
Mais quelqu'un ça concerne qui... pas vraiment tout le monde.
Non,
je sais pas.
Non, ouais. Non, quelqu'un d'accord. qui subit un grave accident de la route. Il a un trauma physique, mais il a aussi un trauma, je pense, pas que physique, psychique. Il va se réadapter, c'est le trauma, il est aussi psychique, parce qu'il va falloir se réadapter à ce nouveau corps, ce nouveau schéma corporel, le regard de l'autre, changer sans doute de métier, changer de fonction, revoir l'habitat à la maison. Ça, c'est un traumatisme aussi qui touche aussi des fois, qui a un impact sur toute la famille. La vie d'avant et celle d'après, elle sera complètement différente.
Voilà, oui, il y a une rupture. C'est dans ce sens-là qu'il y a un trauma. Hein. Ah,
ouais. C'est dans ce sens-là, oui.
Ouais.
Après, alors, le trauma, il est là, mais on travaille autour pour qu'il prenne moins de place, je pense. Qu'ils en fassent quelque chose.
Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le discours des patients lorsqu'ils arrivent suite à cet accident physique?
Souvent, moi, j'ai remarqué souvent que les patients, quand ils arrivent, je retrouve beaucoup de tension, de stress. Ils arrivent dans un nouvel environnement. Ils ont tout un vécu hospitalier derrière eux que nous, on n'a pas, qu'on n'a pas connaissance.
Je préfère. Ouais,
vous préférez ? Ouais.
Oui, parce que...
Ils ont tout ce vécu qu'ils avaient avant, dont nous, on n'a pas connaissance, en fin de compte. Et je pense qu'ils arrivent stressés. Moi, souvent, c'est ce que je remarque. Au début, quand j'ai commencé à prendre mes fonctions... Quand les patients y rentraient à 14h, genre à 14h10, 14h15, j'allais dans leur chambre. Maintenant, je le fais plus. Hein. J'attends. J'attends qu'ils aient vu... ils sont accueillis en bas par une aide-soignante ou une infirmière qui vient les accueillir en bas une fois que tout l'aspect administratif est fait. Quand ils arrivent dans leur chambre, cette infirmière, cette aide-soignante, elle continue à faire l'entrée, comme on dit chez nous. L'entrée, c'est connaître ses habitudes de vie, ses habitudes alimentaires, lui expliquer un peu le fonctionnement, à quelle heure il va manger, comment ça se passe, lui donner son planning de la rééducation, tout ça. Donc c'est énormément d'informations. Derrière, il voit aussi le médecin. Donc voilà, il voit aussi la secrétaire pour tout ce qui est administratif, pour tout ce qui est les documents médico-légaux, la personne de confiance et tout ça. Donc moi, généralement, je viens après tout ça. Et au début, quand je venais au tout début, j'avais face à moi des gens qui étaient bourrés de questions. et qui était dans l'inquiétude de où je mets mes affaires, tout ça, c'est quoi ce nouvel endroit, la rééducation, c'est où, le plateau technique, comment je vais faire. Et moi, j'arrive plutôt en fin, et ils ont eu beaucoup de réponses, ce qui fait que j'ai des gens beaucoup plus disponibles avec moi. Et je reviens sur certains points. On vous a dit pour ça, je vois que vous avez une bouteille d'eau. Oui, c'est bon, bah, j'ai bien compris. Vous avez vu. Ah, bah oui, j'ai vu du monde. Bah, ça défile dans notre chambre. C'est impressionnant tout ce monde qu'on voit. Et, voilà, mais je les sens. Et souvent, ils arrivent, ils sont stressés. Ils arrivent vers une nouvelle étape. Il va falloir se rééduquer, quoi. Ils arrivent pour. Ils sont en attente aussi, je pense, de quelque chose quand ils arrivent chez nous. Ils sont en attente de quelque chose aussi, je pense.
Alors, quand ils sont passés. Quand ils ont passé le cap de toute cette quantité d'informations à l'arrivée, qu'est-ce qu'ils expriment d'eux ? Bon, vous dites qu'ils ont une attente, mais qu'est-ce que...
Bah, des fois, on arrive à savoir plein de choses. C'est rigolo, il y a des gens qui se confient assez rapidement. Ils arrivent à se confier assez rapidement. Ils ont des craintes, des fois, pour dormir, quand ils sont dans des chambres à deux lits, des choses comme ça. Mais on arrive petit à petit à savoir pas mal de choses d'eux. Et puis, on confronte aussi, des fois, entre collègues... sous notre ressenti, ce qu'on a pu aussi percevoir. Bah tiens, cette dame, elle m'a l'air bien stressée, nanana, ou deux, trois jours après, bah tu vois, en fin de compte, ça s'est bien passé dans leur chambre, bah, ces deux dames, elles s'entendent bien, elles se soutiennent bien, enfin, voilà, je pense que... Oui, c'est... Il faut laisser...
Ça reste très pratique pour ce que vous dites là.
Bah, je pense qu'il faut, il faut leur laisser le temps. Les gens qui soient... Il y a toujours un petit temps d'adaptation, je pense. Quand des fois, moi, je vois les équipes qui me disent « Ah, voyons, ça va pas être ça. » Et puis, deux, trois jours après, j'écoute les transmissions, je leur dis « C'est marrant, vous dites plus, ça va plus être simple. » Je dis « Est-ce que vous êtes rendu compte que les gens, ils arrivent, ils peuvent pas être... Il faut accepter qu'ils soient inquiets, il faut accepter qu'ils vous posent des questions. Faut se laisser aussi du
Bien
temps
sûr.
À cette rencontre. Il faut aussi qu'on rentre dans cette rencontre.
Alors qu'est-ce qu'elle a cette inquiétude justement ?
Ah bah, je pense qu'ils sont inquiets, les patients sont inquiets par rapport à la rééducation et le kiné, comment ça se passe et qu'est-ce qu'ils vont me demander, est-ce que je vais être capable d'eux. Je pense qu'il y a une inquiétude de refaire une activité, se réexposer à l'autre, le regard de l'autre face aussi à ce qu'on n'arrive pas à faire.
Regarde l'autre.
Ah, je pense qu'il y a des patients, ouais, c'est difficile. Là, actuellement, avec la Covid, on ne le fait plus. Mais ce qui était chez nous, tous les repas, enfin les trois repas se faisaient en salle à manger. Alors, le repas du midi, c'était concerné l'ensemble des patients. Tous les midis, l'ensemble des patients descendaient manger en salle à manger. Même les gens qui se déplacent en lit, on descendait les lits en salle à manger. Volontairement pour... aussi, avoir un contact aussi avec les autres, le social, il fait aussi partie de la réadaptation, je pense. Ce contact avec l'autre, il est aussi important. Ça permet aussi de voir les autres, voir aussi les progrès que font les autres. Il se crée des liens entre nos patients. On voit bien, puisqu'on n'est pas comme dans un service de chirurgie. Vous rentrez dans n'importe quel service de médecine ou de chirurgie, vous rentrez à la chambre 202, vous n'en sortez pas pendant 15 jours, 3 semaines, on vous sort simplement pour vos examens, de temps en temps vous sortez dans le couloir avec vos familles, mais c'est tout. Chez nous, ils sortent des chambres, ils vont sur le plateau technique, ils sont plusieurs patients en même temps, avec plusieurs kinés sur le plateau technique, ils travaillent sur le regard des autres, ils travaillent avec leur handicap, leurs difficultés face au regard des autres. Donc je pense qu'il y a aussi cette inquiétude-là, quand ils arrivent, ils rentrent dans une autre organisation qui n'est pas une organisation d'un service lambda, quoi, si vous voulez. Et je pense que ça peut générer de l'inquiétude chez le patient. Mais après, il faut, quand il arrive à dépasser ça, après, il le voit bien. Il voit les autres patients qui évoluent. Enfin, on voit qu'il se crée des fois des liens d'une chambre à une autre, dans les couloirs, on les voit discuter. On se croirait pas dans un hall de garde. Des fois, je rigole, quoi. Et c'est agréable de voir ça. Sur la terrasse, ils se retrouvent pour ceux qui fument, avec l'animatrice. Enfin, voilà, ils se retrouvent dans des activités.
Et cette organisation... sociale, elle est pensée, elle est théorisée.
Ah, je pense qu'elle est. Je pense. Moi, j'ai pas travaillé dans d'autres centres de rééducation, mais je pense que c'est ce qui caractérise la rééducation à l'adaptation.
Ah ouais.
Ce type de service. Puisque la rééducation du kiné, elle le fait pas. Il le fait pas dans la chambre du patient. Il le fait dans un gymnase. Et donc les gens travaillent, donc ils bougent de leur chambre les patients. Enfin, c'est comme. Je pense que c'est spécifique à la rééducation à l'adaptation. J'ai été voir dans le cadre de ma formation dans un autre centre de rééducation. Bah voilà, on rentre dedans, on voit des gens qui passent en fauteuil, qui bougent, quoi. Des fois, vous passez dans des services d'hospitalisation, vous voyez pas un patient dans les couloirs. Hein. tout le monde est dans sa chambre. Donc les familles se parlent peu, alors que nous, des fois, on voit des familles aussi qui créent du contact. Et puis on a des patients qui se retrouvent avec la même personne du même bourg que chez eux, du même, la même ville, ou de la, de, du même coin, qui se connaissent. Donc tout ça, ça crée des liens, je pense. Et c'est favorisant, je pense, pour la réinsertion du patient. Il faut qu'il se réinsère dans sa vie. Ouais, il faut qu'il arrive à se réinsérer dans sa vie avec ce qu'il est aujourd'hui, quoi.
Est-ce que on peut essayer de s'arrêter un peu plus sur le discours que les patients peuvent avoir par rapport à leur atteinte physique, par rapport à tout ce qu'ils expriment, par rapport à ce qu'ils vivent, y compris dans le temps des soins? Bon, il y a l'inquiétude. Qu'est-ce qu'ils voulez?
Oui, je pense qu'il y a le regard, la place, ça a un impact sur plein de choses. Hein. Il y a sur leur corps, les cicatrices, quand c'est un accident de la route, qu'il y a des cicatrices. Quand c'est des jeunes filles, on a eu récemment deux jeunes filles avec un grave accident de la route. Voilà, il y a des cicatrices. Tout leur projet professionnel, il a balayé, quoi. Il faut qu'elles réfléchissent à autre chose. Elles vont sans doute en faire quelque chose d'extraordinaire de ce qu'elles ont vécu. Mais au moment où elles le vivent, quand elles arrivent, il y a beaucoup de choses qui se sont effondrées. Alors effectivement, elles sont en vie, elles ont pu mourir. Deux sœurs jumelles, enfin, c'est particulier, quoi. Donc... Mais de ce qui se vit là, je pense que c'est c'est fort, quoi. Je pense que le stress, il est aussi là. Quand je vous parlais du stress de l'entrée, quand il rentre, je pense que outre le fait de voir pas connaître les lieux ou autre chose, je pense qu'au-delà de ça, c'est que on va démarrer la rééducation et l'adaptation. Qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça, quoi? Ouais, pour eux, qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Nous, on sait, on voit des choses, quoi. Mais après, je pense que il faut aussi l'acceptation, le patient amputé. On voit bien, il y a des gens qui arrivent à prendre. On a l'impression qu'ils prennent en charge cette amputation, ils n'ont pas de souci à faire la toilette de leurs membres amputés, ils n'ont pas de souci à expliquer leur prothèse. On voit qu'il y a d'autres gens, toucher son membre amputé c'est compliqué, laver ce membre c'est compliqué. Voilà, chacun évolue différemment. Peut-être qu'ils arrivent aussi avec une évolution différente parce qu'ils ont un vécu avant d'arriver chez nous qui était aussi différent et dont nous on ne connaît pas, quoi. On ne sait pas les conditions, comment, dans quelles conditions ils ont été amputés, est-ce que cette décision, ils nous ont eu le temps de la prendre, est-ce que ça a été fait dans l'urgence. Tout ça, voilà, ils arrivent avec tout ça, quoi, chez nous, quoi. Comme des petites valises, quoi, qu'ils ont apportées. Mais... Oui, puis je pense le patient, il confie... Je pense qu'il y a des relations plus facilement à certains soignants qu'à d'autres. Suivant comment on s'entend aussi, je pense. On a beau être soignant, on est tous différents. On a des tempéraments différents, des façons d'aborder l'autre différents. Et moi, je le vois, avec certaines aides-soignantes, j'ai des patients avec qui le courant passe bien. Et avec d'autres, un peu moins bien. Puis la fois d'après, ça sera avec celle-ci et qui ça s'est moins bien passé, que ça a bien se passé. Ça ne remet pas forcément en compte la qualité de la professionnelle que j'ai, quoi. Mais il y a des relations avec certaines... Oui, il y a des patients qui arrivent à nouer des relations constructives, je pense, avec certains soignants, qui les aident à avancer, à les booster. Et du coup, ils vont bien se confier à ces gens-là. Et entre elles arrivent à se le parler, même ça, dans l'équipe. T'essaieras, parce que moi j'y arrive pas, j'ai pas réussi à lui dire ça. Avec toi ça passe mieux, est-ce que tu peux pas, je sais pas, qu'est-ce que t'en penses? Parce qu'elle arrive toujours pas à faire ça. Bah oui, mais faut peut-être lui laisser du temps.
Comment se présentent à vous les proches, famille?
Moi, dans ma fonction de cadre, ils se présentent pas beaucoup.
Ah bon?
Souvent, quand les proches ils viennent vers moi, c'est qu'il y a un souci. C'est qu'on vient voir le cadre, c'est pour se plaindre de quelque chose.
De quel genre?
Une plainte sur un soignant, une plainte sur une façon de faire, une plainte sur les horaires de visite. Une demande pour une sortie, pour... on renvoie au cadre. matériel qui va pas. Des... Ouais, j'ai très peu de contacts comme ça avec les familles. Hein. Mmh. C'est vraiment très très rare. Hein. Même en... ça va bientôt faire 2 ans que j'ai cette fonction-là. Honnêtement, comme ça, j'arrive même pas à vous retrouver des situations. Moi, je vais avoir des contacts quand je les appelle. Par contre, par téléphone, où je vais me présenter. Et souvent, ils ont peur. Donc souvent, je dis aux gens, je me présente, mon nom, mon prénom, ma fonction, et je dis, ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de grave. Parce que quand on présente cadre de santé, tout de suite, dans la tête des gens, ils s'est imaginé que si j'ai appelé, c'est qu'il s'est passé quelque chose de grave. Donc je dis, il n'y a rien de grave, je vous appelle simplement pour, voilà, ça a été le vote par procuration la semaine dernière, ça peut être... être sûr que l'information sur la sortie est bien transmise parce que le patient a des troubles cognitifs, donc des fois j'ai un petit peu de doute et je voulais être sûr que l'information ait bien été transmise, mais voilà, ça reste à des choses comme ça. Mais des contacts avec des familles pour se plaindre des plaintes, c'est très très rare dans ce sens là c'est rare, mais quand ils viennent vers moi, c'est souvent pour faire une demande. Voilà, c'est une demande. Ouais.
Le bureau des doléances.
Ouais, c'est ça, je pense qu'on est vraiment vu comme, ouais, comme ça. Après, c'est la fonction, vous êtes responsable du service.
Il faut bien qu'il s'adresse à quelqu'un.
Exactement. Ouais.
Quel est le vécu, que diriez-vous du vécu des professionnels ? Du ressenti, tu avais utilisé le mot, Amandine, du ressenti des professionnels par rapport à ces pathologies. Je ne sais pas si c'est...
Bah, moi, quand je discute avec les équipes, alors... Moi, dans mon parcours professionnel, j'ai pas un parcours professionnel de rééducation et adaptation. J'ai fait 14 ans d'hématologie, donc j'ai vraiment un parcours plutôt de soins palliatifs, oncologie, auquel je suis très attachée. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié et que j'ai retrouvé en HAD. Maintenant, j'occupe d'autres. Donc, je découvre un peu la rééducation et adaptation à travers elles. Et souvent, j'en parle. Elles, ce qu'elles expriment, c'est qu'elles apprécient. Elles me disent, moi, j'aurais pas pu faire comme toi ce que tu as fait, accompagner les gens qui meurent. Elles disent, je trouve ça difficile. Ici, ce qui est bien, c'est que les gens, ils arrivent, ils savent pas marcher. On les fait repartir, souvent, ils marchent. Elles disent, c'est bénéfique. Elles disent, j'ai l'impression d'avoir une utilité. Et je dis, pourtant, moi, je la sens, mon utilité, quand j'accompagne quelqu'un qui va mourir. Une utilité, aux dernières étapes de sa vie, c'est quelque chose qui est très intime, très personnel. On a cette présence-là. Mais, et c'est vrai que ce sentiment-là, je l'ai senti aussi. Quand vous croisez, vous arrivez sur le plateau technique, et que là, vous voyez quelqu'un qui commence à marcher, ce pas qui n'est pas sûr, mais qui est là, qui est debout face à vous, et vous le regardez, ils sont heureux, quoi. Vous avez un sentiment de fierté, même vous regardez les kinés, ils disent « chapeau, quoi, bon boulot, quoi ». Et voilà, et c'est ça. Et c'est vrai que ça, ce sentiment-là, souvent, elle le dit, c'est vraiment valorisant. Dernièrement,
c'est orienté vers la vie.
Bah voilà, dernièrement, j'ai fait faire la visite à une nouvelle infirmière qui est arrivée chez nous, et qui a travaillé au CH de Guéret. Et on arrive sur le plateau technique, et là, elle me dit, oh, c'est pas possible, c'est madame... Ben, je dis, oui, c'est madame. Je dis, mais vous la connaissez de l'extérieur? Ah non, elle dit, moi, je travaillais en cardiologie. Quand elle a fait son AVC, elle est arrivée chez nous. Elle n'arrivait même pas à se transférer d'un lit au fauteuil. On était à plusieurs soignants pour la lever. Et aujourd'hui, elle marche avec une canne devant moi. Et même la dame, c'est quelqu'un qui est très, très communicatif, qui parle beaucoup et tout ça. Et elle faisait le pitre. Elle a un franc-parler, elle a une gouaille, si vous voulez. Donc, ça fait rire tout le monde, quoi. Et l'infirmière était, mais... ah, mais elle dit, j'en reviens pas. Elle en était presque émue. Elle dit, vous avez réussi à faire ça. Mais elle dit, nous, on vous l'a envoyé. On s'est dit, cette dame finira dans un EHPAD. Ah, je dis, non, elle rentre chez elle la semaine prochaine. Je lui dis, avec un petit plan d'aide, mais tout ce qu'il y a de plus léger. Une aide pour la toilette 3 fois par semaine pour s'assurer au niveau des soins d'hygiène, qu'il n'y ait pas de soucis. Mais je lui dis, c'est très light. C'est très très... Et donc là, elle croise une infirmière de chez nous qui est là depuis 10 années. Et du coup, j'interpelle cette infirmière. Ben, je dis, tu vois, notre nouvelle collègue, elle est surprise. Cette dame, elle l'a vue en cardiologie. Elle la revoit aujourd'hui, 4 mois après à peu près, 3-4 mois après. Et là, l'infirmière lui dit, ben, dis, tu vois, moi, c'est pour ça que je travaille ici. Parce que moi, j'aime ça. J'aime les voir arriver les gens difficilement et on se creuse la tête, on réfléchit tous ensemble pour leur faire gagner le maximum d'autonomie. Même si ça paraît peu ce qu'on gagne, mais si ça leur permet de rentrer chez eux avec reprendre une vie entre guillemets, bah, comme tout un chacun, et ben bah, dit c'est pour ça que je fais ça. Tu vois, c'est pour ça que je travaille ici. Et c'était chouette cet échange entre quelqu'un qui arrivait et quelqu'un qui était là depuis des années et qui transmettait quelque chose que moi, même si j'avais dit la même chose, c'était la parole du cadre. Là, c'était 2 soignants ensemble. Ouais. Moi, je dis là, c'est pour moi, je les ai laissés faire. C'était et le patient qui a été un peu la pierre angulaire de cet échange. Ouais. Quoi.
L'action qui soutient votre travail, en fait, c'est la positivité.
Ah bah oui, il faut, oui, c'est sûr. Ah non, faut qu'on soit positif. Faut que nous, déjà, cadres, on arrive avec le... Comme on nous apprend des fois dans les cours de management, avec la tête banane. De Mickey, quoi. Voilà, faut arriver avec le Mickey, c'est-à-dire, faut sourire, quoi. Même si ça va pas, faut sourire.
Ah bon, on vous apprend même à sourire.
Ah ben on, voilà, il faut enfin, porter apprend, ça quoi. Vous... Il faut porter ça quoi. Il faut porter cette envie d'être. Parce que quand vous êtes responsable d'une équipe, si vous arrivez en soufflant et en portant toute la misère de monde sur votre épaule, je veux dire, votre équipe, elle va s'effondrer quoi. Non, si vous n'êtes pas moteur, vous êtes pas. Il faut générer chez eux l'envie. Sinon, eux, ils vont se mettre à être comme vous quoi. Et au bout, le patient, s'il a dans des chambres, les gens qui rentrent. En soufflant, qu'est-ce qu'il y a encore ? Vous avez besoin de... Enfin, non, on n'a pas le droit de traiter les gens comme ça, quoi.
Oui. Dans le témoignage que vous apportez, on se rend compte que c'est quand même pas de l'ordre de la méthode Coué. C'est quand même fondamentalement la positivité qui est le sens de votre...
Puis même pour nos patients, pour qu'ils avancent, ils vont passer par des phases où ils vont baisser les bras, où ils vont monter, clac, on va avoir un truc en plateau, ça va pas avancer, ils vont repartir, et ainsi de suite. On va vivre ces chaos-là un petit peu avec eux, c'est-à-dire redescendent. Il faut que nous, derrière, on soit là en disant « Regardez ce que vous avez fait. Regardez pas hier. Regardez par rapport à il y a 15 jours. Il y a 15 jours, vous n'arriviez pas à faire ça. Aujourd'hui, vous faites ça. Bah oui, ça avance un peu moins vite, mais il faut peut-être laisser un peu le temps. Vous êtes fatigué. Ça va repartir. Ah bon, vous croyez ? Bah oui, j'en suis sûr. Oui, j'en suis sûr, vous allez y arriver. »
Quel dernier mot vous donneriez à votre entretien, cet entretien ?
Ça fait du bien. À chaque fois, c'est ce que je vous dis. De reposer des mots sur des choses sur lesquelles on n'a pas le temps. Ce manque de temps qu'on a actuellement, qui est encore plus criant, je pense, qu'il y a quelques années. Et ça fait du bien de pouvoir poser des mots et de réfléchir à quel mot on met le sens du mot, quoi. Ce qu'on met en face de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit au quotidien dans notre travail. Ce que moi, j'avais déjà apprécié dans le premier travail qu'on avait fait avec vous, de remettre des mots sur des choses... c'est pas anodin, ce qu'on fait. Et il y a des petites choses, ça peut paraître simple, mais... Mais c'est pas anodin, donc pouvoir prendre un temps et y réfléchir un peu, ça permet de se rendre compte que ce qu'on fait, c'est pas rien aussi.
Voilà. Très bien. Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci à vous.
Et nous nous retrouverons donc pour la réunion générale.
Générale, ouais.